On va rester à Ottawa parce que Christopher Nardi, journaliste pour le National Post sur la colline parlementaire, a décortiqué le budget dans ce qu'on appelle le lockdown, dans cette période où les journalistes peuvent étudier le budget. Et c'est présentement présenté là, à la Chambre des communes par la ministre Chrystia Freeland, la ministre des Finances. Salut Christopher!
Salut Patrick!
Donc, qu'est-ce qui retient ton attention d'abord là, comme mesure importante dans ce budget-là?
Écoute, c'est un budget fort dépensier, on s'étonnera pas. On prévoit déjà, je pense que la première chose que les journalistes ont regardé, c'était le montant du déficit et il est épatant encore une fois. On parle de 354 milliards de dollars cette année et qui doit chuter graduellement à, disons, seulement, entre guillemets, 30,5 milliards dans 5 ans. Mais c'est un budget qui est fort dépensier parce qu'on investit, on bonifie, on crée même beaucoup de nouveaux programmes sociaux pour évidemment aider à traverser ce qui reste de la pandémie, de la relance économique qui s'ensuivra. Je pense que la promesse forte qui atteindra surtout l'attention au Canada anglais, c'est la promesse d'un lancement d'un programme national de garderie subventionné, extrêmement semblable, à vrai dire, à celui du Québec, où on veut offrir d'ici 5 ans des places de garderie à travers le pays à 10 $ par jour. C'est un investissement, Patrick, de 30 milliards de dollars et plus au fil des années. Et là, tu me demandes, je l'entends, mais le Québec...
ben oui, parce que nous, on a investi là-dedans il y a 20 ans. Donc, si Ottawa investit ailleurs, devrait nous donner quelques dollars pour ça, là.
Ben c'est ça. Et c'est les détails qu'on attend toujours, Patrick, parce que Mme Freeland, la ministre des Finances, le dit, on s'est inspiré du programme du Québec, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, ils disent, on est en train de négocier avec le Québec une entente asymétrique pour leur fournir de l'argent, pour au mieux bonifier leur programme qui existe déjà, ou peut-être qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent avec cet argent-là. Tous ces détails, malheureusement, Patrick, ne sont pas connus et ne sont pas clairs. Mais sache que le Québec, effectivement, a inspiré le reste du Canada et ça demande... C'est la promesse forte. Mais évidemment, on étend aussi une série, tous les programmes d'aide COVID qui existent en ce moment, on les étend jusqu'en septembre, évidemment, à cause de la troisième vague. Après ça, il y a une panoplie d'autres mesures, par exemple, 6 milliards de dollars pour les étudiants en bonification de prêts et bourses, une hausse du salaire minimum à 15 $ par heure pour les emplois de juridiction fédérale, ce qui est une nouveauté, et une bonification, par exemple, de 10 % de la pension de la sécurité vieillesse.
Écoute, tout ça donne un peu le tournis quand on a grandi, comme toi et moi, Christopher, dans la culture du déficit zéro, mais ça sent un peu les élections, là. Justin Trudeau pourrait aller devant l'électorat et dire « Regardez tout ce que j'ai fait de bon pour vous, mesdames et messieurs. »
C'est une plateforme électorale clé en main, ce budget. Patrick, on va s'entendre. C'est quelque chose qui se copie-colle très bien dans une plateforme électorale, surtout parce qu'il y a beaucoup de ces promesses-là, évidemment, qui sont au moyen-long terme. Même le lancement, on ne lance pas un réseau de garderies subventionnées du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il y a aussi, évidemment, une foule de promesses pour les entreprises, pour stimuler les investissements et créer beaucoup d'emplois en sortant de la pandémie qui vont quand même attirer les entrepreneurs. On parle notamment de 4 milliards de dollars pour aider les petites entreprises à faire la transition numérique, par exemple, ou un nouveau programme d'aide de COVID pour cet été pour encourager l'embauche de nouveaux employés et remplacer justement ces emplois qui ont été perdus à cause de tout ça. Mais c'est sûr, Patrick, qu'on essaye de plaire à tous les Canadiens. Je pense que tous les Canadiens, peu importe où ils sont rendus dans la vie, vont s'y retrouver dans au moins une ou plusieurs de ces mesures qui sont annoncées. Et on verra ensuite si c'est populaire, mais c'est sûr qu'on essaye de plaire.
Christopher, tu travailles en virtuel, là, mais dans les couloirs virtuels du Parlement, là, renseigne-nous donc un peu les chances que le gouvernement tombe à cause de ce budget-là. C'est quoi, d'après toi?
Je te dirais qu'elles sont assez basses. C'est sûr que je veux pas dire ça et que dans 3 jours, on se retrouve en élection. mais les chances sont basses que les oppositions réussissent à faire tomber ce gouvernement-là. Le NPD et le chef Jagmeet Singh avaient déjà dit qu'il était très enclin à supporter ce budget, que personne ne voulait aller en élection dans son parti avant la fin de la pandémie au Canada. Et donc, ce serait étonnant de voir, et évidemment, vu que dans la situation identitaire où on est, les libéraux ont besoin de l'appui de seulement un parti de l'opposition pour garder le pouvoir. Donc, ça me semble très peu probable que ce soit cet automne. probablement pas cet été, pas ce printemps, probablement pas cet été, mais on regarde probablement plus à l'automne qu'on voudra peut-être se lancer. Tu sais, lorsque tout le monde a reçu son vaccin, on va se sentir mieux, l'économie va se rouvrir, on va être au bord, on va commencer à se dire, ah, peut-être que je pourrais tenter par une élection. Je pense que c'est ce temps-là que les libéraux cherchent.
Toujours un plaisir. Merci, Christopher. Bonne journée.
Merci, Patrick.
Salut, c'était Christopher Nardi qui est correspondant pour le National Post sur la colline parlementaire à Ottawa.